Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette saison 2015-2016, il nous reste 6 émissions, 3 en mai et 3 en juin. En mai, le mardi 31, nous ferons une émission en hommage à Michel Serres qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut être présent parmi nous, mais nous aurons au moins sa voix. Le lundi 30, ça sera une émission sur les cris de la terre et de la nature, et ce soir, une émission sur la poésie. Sans la poésie, mais que signifie la vie ? Face à l'hyperprose, au déferlement d'un monde parcellarisé, chronométré, monétarisé, qui atteint non seulement la manière de vivre, mais aussi le mode de pensée, la poésie est plus qu'une ardente obligation. Déjà, Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, écrivait comme un cri désespéré « Je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux de la poésie ». Oui, sans la poésie, que signifie la vie ? La poésie, ce n'est pas d'abord une ou des formes plus ou moins mystérieuses. Pour chacun, j'insiste, la poésie est essentielle. Charles Baudelaire disait « Tout homme bien portant peut se passer de manger pendant 2 jours, de poésie jamais ». Alors ce soir, je vous invite à un voyage en 4 étapes. Pour cette première partie, 3 étapes, nous allons retenir quelques citations que j'ai trouvées particulièrement importantes, puis nous allons écouter des poésies du monde entier, lues par Anna, et nous allons explorer ce monde de la poésie. Dans la seconde partie, nous accueillerons en direct Gilles Jouannard, qui est nommé par la revue Faire Part dans un numéro spécial remarquable, contemplateur itinérant. Gilles est auteur de plus de 50 livres, de plusieurs centaines de publications, de très nombreux inédits, à ce jour non publiés. Gilles a un parcours de vie, un parcours d'écriture unique. Gilles est un être à écouter ce soir en priorité. Mais commençons, si vous voulez, par quelques citations. Valérie d'abord. La plupart des hommes, écrit Valérie, ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Au fond, le mystère de la poésie, c'est d'être attentif au monde. Et Baudelaire, à nouveau, dit ceci, « Le peuple a besoin de poésie comme de pain, non pas la poésie enfermée dans les mots, celle-là elle-même ne peut être d'aucun usage, il a besoin que la substance quotidienne de la vie soit elle-même poétisée. » Et en écho, Bachelard écrit « La poésie apparaît comme un phénomène de liberté. » Et Prévert ajoute « La poésie, c'est de trouver en soi ce que trop cherche en dehors d'eux. La poésie, c'est un des plus vrais, un des plus utiles surnoms de la vie. » Max Jacob écrit « La poésie dit l'ineffable. On lit, on le relit. » On ne peut trouver de poésie nulle part quand rien en nous ne peut l'accueillir. Car Victor Hugo nous rappelle « La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime en soi. » Et Rimbaud, Arthur Rimbaud, a cette phrase très connue « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. » Éluard lui répond « Le poète, c'est celui qui inspire bien plus qu'il n'est inspiré. » Voilà quelques citations pour commencer notre voyage en poésie. Nous allons maintenant en 2 étapes, une première étape concernant 9 pays, puis une seconde étape où on fera 2 pays, l'Amérique latine et l'Afrique. Nous allons donc écouter des poésies du monde entier. Commençons donc par cette première étape sur 9 pays, avec la voix d'Anna. Je vous propose un tour du monde en 9 étapes pour découvrir des poésies. Nous allons commencer par la Russie, et plus précisément, un texte de Marc Chagall.
Comme un barbare. Là où se pressent des maisons courbées, là où monte le chemin du cimetière, là où coule un fleuve élargi, là, j'ai rêvé ma vie. La nuit, il vole un ange dans le ciel, un éclair blanc sur les toits. Il me prédit une longue, longue route. Il lancera mon nom au-dessus des maisons, mon peuple. C'est pour toi que j'ai chanté. Qui sait si ce chant te plaît ? Une voix sort de mes poumons, toute chagrin et fatigue. C'est d'après toi que je peins, fleurs, forêts, gens et maisons. Comme un barbare, je colore ta face. Nuit et jour, je te bénis.
Notre deuxième étape va être la Chine. Un texte court de François Chen, qui vient de Chine et qui maintenant est à l'Académie française.
Entre le mage et l'éclair, rien. Sinon le trait de loi sauvage. Sinon le passage du corps foudroyé au royaume des échos, entre.
Notre troisième étape, ce sera une poésie kurde. Écoutez.
Il te dira combien je t'aime. Sous ma poitrine, mon cœur se tait. Sous ma poitrine, mon cœur se tait de nostalgie et d'espérance. Dans le bonheur, dans la souffrance, le mot sublime est le silence. C'est le silence. C'est le silence. C'est l'ivresse de l'espérance. Puis-je espérer ? Tu seras mienne ? C'est un mot vain, je le sais bien. Le désespoir dans l'espérance, c'est le silence. C'est le silence. Mais ceci n'est qu'une apparence. Interroge-le. Est-il muet ? Écoute-le bien. Entends-le bien. Il te dira combien je t'aime.
Nous allons, comme prochaine étape, aller au Liban pour écouter cette poésie, cette méditation à propos de la mort d'une figue.
Les oiseaux sont de jour. Les oiseaux sont de nuit. Figue puissante et belle, et de peau blanche et de peau noire es-tu, selon ta race étrange. À peine ouverte avec du sec, avec du lait, et dans ton corps d'infante fendu sous le duvet, le feu de ta féminité nature attire, écarte, épuise les oiseaux fous de la lumière de la lune au piège de l'angélico, fermé, réel. La mamelle iridée. L'outre du vent splendide a libéré le ciel de tous ses pleurs. Il y a eu le soleil et il y a eu la lune, pour aider la plus figue à devenir si ronde, pour aider la plus fille à devenir suave, pour aider l'une et l'autre à mélanger leurs pleurs, à mélanger leur peau d'amour jusqu'au suc.
Voici maintenant un texte très court, une poésie anglaise, qui a été traduite par Marguerite Yourcenar, dans son livre « La voix des choses ».
Toutes choses, proches ou lointaines, secrètement, sont reliées les unes aux autres. Et vous ne pouvez toucher une fleur sans déranger une étoile.
Notre prochaine étape, c'est la Roumanie. La fin du monde.
Prendre corps. Je te flore, tu me faunes. Je te peaux. Je te porte et te fenêtre. Tu m'os, tu m'océan, tu m'audace, tu me météorite. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme, on me paradoxe, je te clavecin, tu me silencieusement. Tu me miroir, je te montre.
Puis, nous allons en Pologne.
Cercle. La vie, quel beau cercle, parfait, parfaitement rond, faible, malheureux, les jeunes gens essaient de s'y dérober, d'y échapper. Ils tentent de briser, de casser, de changer le cercle en un carré noir. Ne t'enfièvre pas, ne te presse pas, ne désespère pas, il ne faut pas. Attends patiemment, n'accélère pas, ne porte pas la main sur toi. La seule, la vraie sortie de ce cercle, c'est la mort. Attends, ça viendra tout seul, sans démarche, sans larmes, sans gestes inutiles, sans lettre d'adieu. Par la naissance ensanglantée et aveugle, criant, tu es tombé, dans le cercle enchanté. Ton cercle de craie, plein d'ombre et de lumière, idéal, parfaitement clos, c'est le dernier dieu à être vivant. Par la mort, tu en sortiras, donne-moi la main.
Après ce texte magnifique de la Pologne, arrêtons-nous en Allemagne.
C'est de la côte d'Adam qu'on a retiré Ève. Mais quand sa vie s'achève, où va-t-elle, mourant ? Adam serait-il son tombeau ? Faut-il, lorsqu'elle se lasse, lui ménager une place dans un homme bien clos ?
Et puis, nous allons terminer par la France, par un texte d'Arthur Rimbaud, Sensation.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme.
Voilà, nous allons faire une toute petite pause avec un morceau de Rameau que je vous laisse découvrir au clavecin par Scott Rose. Écoutons cette transition. Et terminons ce tour du monde par l'Amérique latine et l'Afrique. Merci Anna pour ce voyage dans 9 pays. Je vous invite maintenant, Anna, à nous inviter en Afrique et en Amérique latine pour des poésies qui ont une autre coloration, une autre saveur. Nous allons d'abord nous arrêter en Afrique pour cette poésie que je trouve très belle, Souffle, qui est de Birago Diop.
Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Des souffles qui demeurent, dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort. Des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres.
Et maintenant, Anna, si vous voulez nous lire un poème de Pablo Neruda qui a pour titre « Le poète ».
Avant, je circulais dans la vie, un amour douloureux m'entourait. Avant, je retenais une petite page de quartz en clouant les yeux sur la vie. J'achetais un peu de bonté, je fréquentais le marché de la jalousie, je respirais les eaux les plus sourdes de l'envie, l'inhumaine hostilité des masques et des êtres. Le monde où je vivais était marécage marin. Le fleuve brusquement, le lit tout à coup me dévorait dans son frisson d'écume. Et là où je posais le pied, mon cœur glissait vers les dents de l'abîme. Ainsi naquit ma poésie, à peine arrachée aux orties, empoignée sur la solitude comme un châtiment, ou qui, dans le jardin de l'impudeur, en éloignait sa fleur la plus secrète au point de l'enterrer. Isolé donc comme l'eau noire, qui vit dans ses couloirs profonds, de main en main, je coulais vers l'isolement de chacun, vers la haine quotidienne, je sus qu'il vivait ainsi, en cachant la moitié des êtres, comme des poissons de l'océan le plus étrange, et j'aperçus la mort dans les boueuses immensités, la mort qui ouvrait porte et chemin, la mort qui se faufilait dans les murs.
Voilà, alors si vous voulez, après ces quelques citations et ces poésies du monde, essayons d'explorer la poésie. Alors je renonce bien sûr à définir la poésie dans une formule stable, mais je retiens tout d'abord ce bref passage d'Heidegger. Le langage est la demeure de l'être, dans sa maison habite l'homme. Les penseurs et les poètes sont les gardiens de cette maison. La poésie est la fondation de l'être par la parole. Et il ajoute, à propos de Reich, telle est la fonction du poète, surtout en temps de pénurie comme la nôtre. La poésie est une mystique du réel, je pense. Elle vise à ce que notre monde ne soit pas seulement habitable pour les imbéciles, selon la belle formule d'un poète d'Amérique latine, qui par ailleurs écrit le poème suivant, que je trouve personnellement très beau. Je pense qu'en ce moment, personne peut-être ne pense à moi dans l'univers. Que moi seul je me pense. Et si maintenant je mourais, personne, ni moi, ne penserait. Et ici commence l'abîme, comme lorsque je m'endors. Je suis mon propre soutien et me l'ôte. Je contribue à tapisser d'absence toute chose. C'est pour cela peut-être que penser à un homme revient à le sauver. Unamuno ajoutait, la pensée ressent, le sentiment pense. Il n'est de poésie, vous l'avez compris, sans silence, sans solitude. La poésie exige la disponibilité, l'ouvert, l'attente. Cette attente qui est un des fondements de la poésie. La poésie est la tentative de dire l'indicible, c'est l'usage le plus extrême et le plus risqué du langage. Le poète, à ce titre, est toujours un apprenti. Il est toujours en apprentissage. Il assume douloureusement l'imperfection. Je pense que certains s'y reconnaissent, que vous ayez commencé à écrire étant enfant, étant adolescent ou plus tard, le poète assume douloureusement l'imperfection. La poésie ne cesse d'être poursuite de l'impossible. C'est l'art de l'impossible. Elle est recherche de l'autre côté des choses, du caché, de l'envers, du non-apparent, de ce qui semblait ne pas être. Il faut probablement toute une vie pour essayer d'accéder à la poésie. Alors ne désespérez pas. En créant, le poète lutte pour la dignité et la grandeur de l'homme. La poésie, chemin de liberté, chemin de vie. En cela, la poésie est proche de l'amour. Quelle est belle cette phrase d'un poète argentin. La création, dit-il, est l'unique moyen de déchiffrer la tristesse qui quête et accompagne le destin de l'homme. Souvenons-nous toujours que la poésie est bien plus qu'un genre littéraire. C'est la parole de l'homme convertie en création et en exploration. Comment, pour cette brève émission sur la poésie, ne pas terminer cette première partie en allant frapper à la porte de Rainer Maria Rilke, écrivain et poète autrichien, 1875-1926, et plus précisément de son ouvrage « Lettres à un jeune poète ». Oui, chers auditeurs, nous sommes tous, nous sommes chacun de jeunes poètes. Voici ce qu'il nous dit. La destinée ne vient pas du dehors de l'homme, elle sort de l'homme lui-même. Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la tranche extraordinaire de la ruche d'or de l'invisible. Au jeune poète, il écrit « Notre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous devriez désormais ne plus faire. Personne ne peut vous conseiller, ni vous aider. Personne. Vous entendez bien, chers auditeurs, personne. Il n'existe qu'un moyen, plonger en nous-mêmes. » Et dans ses recommandations au jeune poète, il ajoute « Cherchez à dire comme si vous étiez le premier homme de ce que vous voyez, de ce que vous éprouvez, ce qui est objet d'amour ou de perte. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez plutôt vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui crée, ajoute-t-il, il y a en effet ni pauvreté, ni lieu indigent et indifférent. » Terminons cette première partie, mais ne quittez pas l'antenne, par ce morceau de Couperin, toujours joué par Ross. Je très chers auditeurs, cette information. Demain, art et livres à Montsartou, tout à côté de Botanique, Daniel Baudot-Laxine, que nous avons reçu récemment dans cette émission, va animer un débat et va parler de son livre. Vous êtes invité dans le petit amphi du nouveau lieu d'art et livres qui se trouve encore une fois sous Botanique. Je vous invite à y aller nombreux. Vous aurez en direct Daniel Baudot qui vous parlera de ma danse avec Picasso. À tout de suite. Pour cette seconde partie de l'émission, nous allons accueillir Gilles Jouannard. Je vous l'ai brièvement présenté en début de première partie et vous aurez, dans la note de synthèse qui accompagne cette émission sur le site, des documents très détaillés avec une biographie qui, entre autres, le concerne. Son parcours d'écriture est l'un des plus singuliers qu'un lecteur puisse aborder, traverser et vivre. Ses livres sont le plus souvent inclassables. Ils vont de la poésie au journal intime, au journal de voyage à la critique, à l'essai, mais aussi son regard est porté à des œuvres essentielles, sans oublier la musique. Encore une fois, le numéro remarquable de la revue littéraire Faire Part le présente comme Gilles Jouannard, contemplateur itinérant. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Alors merci beaucoup d'être avec nous en direct et je vais vous laisser la parole en vous invitant, si vous le voulez bien, à répondre à ces quatre questions. La première, mais quel est donc ce chemin faisant extraordinaire que vous avez vécu ? La seconde, c'est quoi pour vous la poésie ? La troisième serait celle-ci, comment contribuer selon vous à réenchanter le monde ? Et puis la dernière, ça sera, quel est l'apport de la musique dans votre vie ? Et là, je vous inviterai à choisir un morceau de musique, si vous le voulez bien.
D'accord. Alors, je vous suggère de me réitérer les questions les unes après les autres. Mais la première, je l'ai bien comprise. Je l'ai bien retenue, je veux dire. Donc, il s'agit de que je vous dise quel a été le chemin qui m'a conduit à ce que je suis, finalement.
Voilà, tout
à
fait.
À ce que j'écris, à la manière dont j'écris, etc. Bon, je suis issu d'une famille qui était totalement illettrée, voire pas analphabète, mais enfin, en tout cas, illettrée. Ma mère était femme de ménage, etc., etc. Il se trouve que dans mon enfance, j'ai été amené à suivre l'évolution de deux êtres qui se sont séparés d'ailleurs quand j'avais 8 ans et qui ont eu pour mon père une vie de boulanger tout à fait normale. Mais ma mère, ça a été une aventurière. Elle est partie derrière NGI aux États-Unis. Ensuite, quand elle est revenue, elle s'est mariée avec un prisonnier de guerre allemand. J'ai suivi tout ça. Donc ça m'a conduit à plusieurs choses. D'une part, à me rendre compte que la vie est compliquée, premièrement. Deuxièmement, étant très trimballé à travers le monde, qu'il y avait des langues différentes, et donc j'ai été sensibilisé au phénomène de la langue, quelle qu'elle soit. Et ensuite, voulant me rapatrier, je me suis mis à lire, à un âge où on lit plutôt Tintin et Milou, à lire les livres en français qui se trouvaient chez les gens qui avaient appris le français en Allemagne, par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme livres ? Balzac, Flaubert, Stendhal, et pas Tintin et Milou. Donc, à 12 ans, eh bien, ma lecture, qui était de rapatriement, finalement, c'était une lecture tout à fait ahurissante, quoi, finalement. Si bien que lorsque je suis revenu pour me scolariser, parce qu'on ne pouvait pas me scolariser en Allemagne, bien sûr, j'étais trop vieux pour être en 6e, pour être au cours préparatoire, et j'ai trop peu l'allemand pour pouvoir être à mon niveau. Bon, quoi qu'il en soit, je rentre en France avec comme langue une langue artificielle, celle de la littérature. Et à partir de là, j'ai été coupé de toute communication ordinaire, normale, avec mes copains, qui en étaient toujours à 13 ans, 14 ans, là où on est toujours à 13 ou 14 ans, et où j'aurais été moi-même si j'étais resté avec eux. Mais tout d'un coup, il y avait ce hiatus, et ma vraie patrie, c'était finalement la langue littéraire. Et à partir de là, j'ai préféré, et il m'a été plus simple plus exactement, d'écrire que de parler. Et par conséquent, l'écriture est venue non pas du tout pour devenir écrivain, je ne pensais pas une seconde à ça, encore actuellement ça me préoccupe très peu, mais en revanche, pénétrer la mémoire de la langue, jusqu'à ce que je me rende compte que cette mémoire, ben, c'était aussi finalement la mienne de diverses façons. Voilà, je simplifie, hein, mais bon, alors, donc à partir de là, donc j'ai engagé une vie dans la culture, hein, j'ai été un acteur culturel, j'ai organisé des tas de choses dans le monde, des rencontres, des lectures, des salons, etc. Si bien que je suis devenu à la fois, pas seulement polyglotte, mais cosmopolite, et en même temps très centré vers les écritures, paradoxalement d'ailleurs, les plus intériorisées finalement, et pas celles du voyage par exemple. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question.
C'est bien. Alors pour vous, c'est quoi la poésie, Gilles ?
Pour moi, la poésie, je ne sais pas ce que c'est que la poésie. La poésie, à travers les âges, ça a été des choses extrêmement diverses, parce que la geste de Gilgamesh, c'est un poème épique, mythologique. La chanson de Roland, c'est une geste épique également, finalement. Mais après, à partir des troubadours du XIIe siècle, occitan d'ailleurs, eh bien, tout d'un coup, elle devient une affaire personnelle. Tout d'un coup, le poète dit « je ». Hein, il ne parle plus des dieux, des rois, des héros, mais tout d'un coup, il parle de lui, de son amour, etc. Il invente l'amour, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, ce sont les troubadours occitans qui ont inventé l'amour tel que nous le concevons, nous, aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas d'amour, on faisait l'amour, mais l'amour n'existait pas. Bon, quoi qu'il en soit, à partir de là, l'histoire de la littérature poétique s'accélère considérablement. Ça n'est plus des grands pinsommes mythologique, mais tout d'un coup, il dit « je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes pas, etc. etc. » C'est Ronsard, c'est etc. Bon. Et alors donc, elle a été des choses qui ont varié d'une façon formidable, jusqu'à ce qu'il y ait une première révolution, disons, à l'époque romantique, qui l'a fait déjà basculer vers, déjà non pas la psychanalyse, mais elle est induite par leur démarche, c'est-à-dire que dans l'obscur de l'homme, quoi, son mystère, et puis elle bascule ensuite vers le surréalisme, etc., etc., et elle a été des choses extrêmement diverses. On a du mal à mettre ensemble comme poète, la ribambelle de gens qui, disons, de Brutebeuf ou Villon à aujourd'hui, ont écrit de ce qu'on appelle, nous, de la poésie, et qui a été des choses très diverses. Ne serait-ce que déjà, le fait que la poésie, pendant des siècles, a été nécessairement en vers, d'ailleurs, c'était l'art d'écrire des vers, la poésie. La définition dans Larousse, quand j'étais gamin, c'était poésie, deux points, art d'écrire des vers. Voilà. Eh bien, ça fait belle lurette que ça n'est plus ça. Enfin, en tout cas, plus seulement ça. Voilà. Alors, la poésie, pour moi, c'est, disons, presque plus une manière d'être ou de voir le monde, d'éprouver le monde, que d'écrire. Ensuite, on transcrit ça si on est poète, si on se croit poète, parce que des poètes, il y en a beaucoup moins qu'on ne dit. Si on écoute la rumeur, on serait 50 000 en France. S'il y en a 12, c'est très bien, hein, dont je ne suis pas, d'ailleurs. Parce que je ne suis pas un poète, parce que je suis un écrivain, entre guillemets. J'écris des proses où la poésie peut se trouver parfois. Mais d'ailleurs, à ce propos, excusez-moi, je parle vite, hein, j'enchaîne les idées parce que je pense vite aussi. À ce propos, eh bien, je trouve beaucoup plus de poésie dans certaines proses entre guillemets romanesques, par exemple chez Michon, chez Bergugno, chez Trassard, que dans une quantité de gens qui disent « moi je suis poète », qui se revendiquent poète. La poésie, finalement, c'est une manière d'interpeller la réalité qui ne peut pas se définir dans une forme unique. Voilà. C'est une manière, dans toute prise de parole, de faire apparaître quelque chose qui est derrière. Derrière le miroir, derrière ce qu'on voudra, derrière la réalité. C'était la façon qu'avaient les Gaulois de percevoir le monde. Ils avaient toujours un regard porté derrière les choses qu'ils voyaient. Voilà.
Gilles, oui, vous rejoignez tout à fait ce que nous avons dit dans la première émission, dans la première partie. Alors, j'ai envie de vous poser, à vous qui êtes contemplateur itinérant, qui circulez, comme vous venez de le dire, enfin, vous avez un parcours tout à fait extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème majeur actuellement, c'est de réenchanter le monde? Mais comment s'y prendre?
Oui, il y a bien entendu une nécessité urgente de réenchanter le monde, mais si on ne voit regarder les choses dans les yeux, eh bien, il aurait toujours fallu le réenchanter. Il n'a jamais été enchanté, le monde. Le monde a toujours été soumis aux pires horreurs que le primate dit Homo sapiens, parce qu'en plus, il se vante d'être sapiens sapiens, ce qui veut dire sage, hein, entre parenthèses. Ça veut dire savant et sage, sapiens sapiens. Il faut le faire. Il faut oser se désigner comme ça quand on fait les conneries et les saloperies qu'on peut faire depuis la nuit des temps. Parce que depuis, disons, au minimum, avant, on ne sait pas trop, hein, mais à partir des Sumères, c'est-à-dire à partir du moment où l'histoire est écrite, donc où elle existe vraiment, eh bien, ça n'est que des guerres. Ça n'est que des guerres. Sumère, ce n'était pas un pays, c'était une série de villes-états qui passaient leur temps à s'attaquer, se tuer, se réduire en esclavage, se couper la tête, etc., etc. Et puis ça a continué avec les Égyptiens, avec les Grecs, avec tout le monde. L'humanité est le pire des animaux. Il est parti comme charognard, hein, très longtemps, pendant des millénaires, pendant des centaines de millénaires, il était charognard. Et tout d'un coup, sa grande invention, ça a été l'arme. Et l'arme lui a permis de devenir prédateur. Alors, il est passé de charognard, qui était le dernier à manger les cadavres qui avaient attaqué les lions, par exemple. Il y avait, avant lui, il y avait la hyène, il y avait le vautour, et puis après lui, le plus faible, eh bien, a grappillé ce qui restait. Et tout d'un coup, il a trouvé le moyen par les armes qu'il a inventées, de passer devant tout le monde, y compris devant le lion. Et donc, il est devenu le suprême prédateur. Voilà. Alors oui, donc je me rappelle même plus pourquoi vous disiez ça. C'était quoi la question déjà?
Non, c'était la question, que c'était peut-on réenchanter le monde et comment? Et vous nous rappelez que le monde n'a jamais été enchanté.
Dans ce contexte-là, d'atrocité finalement, continue, eh bien, quelques individus rarissimes ont mis du merveilleux et des questions fondamentales. Alors, ça aboutit parfois à des religions et parfois à de la poésie ou à de l'art, simplement. Parce que l'art que je préfère, d'ailleurs, à la poésie, c'est la musique, hein, par exemple, qui n'a aucun discours sur rien, mais qui émeut dans les profondeurs de soi. Bon, réenchanter, c'est l'affaire de chacun de nous. Personne n'a besoin qu'un artiste ou un poète intervienne pour que lui-même s'enchante de la réalité quand elle est enchanteresse, parce qu'elle est parfois atroce, mais quand elle est enchanteresse, au printemps par exemple, tout d'un coup, c'est enchanteur, il se passe des choses qu'on a du mal à saisir, à évaluer, etc., mais qui vous remue. Et ce remuement en vous, eh bien, c'est ça l'enchantement. C'est la réalité qui tout d'un coup se met en marche en profondeur, dans son substrat et dans sa trame. C'est la trame de la réalité, le merveilleux, voilà, exactement.
Gilles, vous venez, je pense, ces jours-ci de sortir un nouveau livre. Voulez-vous nous en parler brièvement ?
Alors, oui, très volontiers. Ça tombe bien, ça tombe bien. Je veux dire que, comme j'ai parlé au début de mon départ, eh bien, ce livre, je ne me rappelle plus le titre, pardonnez-moi, mais je parle tellement vite que j'ai oublié le titre de mon livre qui est sorti il y a trois jours. Enfin, bref, peu importe. C'est les roses blanches. Vous savez, c'est le titre de la chanson de Bert Silva. C'est aujourd'hui dimanche, je m'en vais voir maman. Bon, c'est une chanson réaliste, triste, que me voyant à pleurer. D'ailleurs, ma mère pleurait tout le temps en la chantant. Eh bien, j'ai relaté sous ce titre-là la vie extravagante d'une petite bergère de 8 ans, parce que ma mère était bergère en Lozère à 8 ans et demi. C'est-à-dire, elle était serve, elle était esclave. Hein. Puis ensuite, elle a été bonne à tout faire, femme de ménage, et puis aventurière. Voilà. Et c'est cette vie que je raconte. Hein. La saga d'une petite bergère du Gévaudan qui finit par poursuivre un GI dans l'Ohio Voilà, c'est ça ce livre. Et alors, au passage, bien sûr, je ne parle pas de moi, je parle de moi par ricochet, bien sûr, mais je parle d'elle, évidemment, c'est elle l'héroïne, et je la fais intervenir comme elle intervenait. C'était un personnage absolument extraordinaire qui s'en prenait au monde entier, aux flics s'il le fallait, aux politiciens s'il le fallait. Voilà, c'était donc un personnage très haut en couleur. Voilà.
Quelle maison d'édition ce livre. Gilles, quelle maison d'édition
Seulement à la fin du mois d'août dans les librairies.
D'accord. Et la maison d'édition, c'est
Phébus.
D'accord. Très bien. Merci. Alors, quels sont vos projets pour les années à venir?
Alors, pour les années à venir, ben d'abord vivre, c'est pas mal l'âge que j'ai. Si je peux vivre encore quelques années, je serais ravi, d'abord. Et puis, il faut se satisfaire de peu de choses, parfois. Hein. Et par ailleurs, ben, de continuer à publier. Je dirais pas à écrire, parce que j'écris tout le temps. Je suis ce qu'on appelle, enfin, on n'appelle pas, mais moi je l'appelle comme ça, un graphomane. C'est-à-dire que j'écris tout le temps. Je ne peux pas rester sans écrire. Quand je voyage, j'écris dans le train, dans l'avion, à l'hôtel, au restaurant si je suis seul, etc. J'écris tout le temps. Si bien que j'ai une quarantaine de livres qui sont à paraître, quoi, qui sont encore inédits, parce que j'ai beau en publier un tous les ans ou tous les deux ans, il m'en reste toujours, et puis j'en ajoute tout le temps. Donc, je vais continuer à écrire et à vivre. Voilà, tout simplement.
Et vous avez, dans le domaine de la culture où vous êtes intervenu, vous intervenez beaucoup, d'autres projets de rencontres, de débats, d'organisations?
Eh bien, disons que quand j'avais l'âge de passer le bac, comme j'avais été maltraité par la vie et par ma scolarité, j'avais été scolarisé très très tard à cause de la guerre, mon père était résistant et j'étais planqué, enfin donc j'ai été scolarisé tard à la libération, et donc j'étais en retard surtout, et j'ai eu affaire à des pédagogues vraiment déplorables, si bien que très vite je me suis évadé sans faire d'histoire, j'ai pas été turbulent ni rien, mais j'étais rêveur, quoi. Enfin, je passais pour rêveur, c'était commode, parce que j'étais toujours ailleurs, hein, tout simplement. Je sais plus pourquoi je dis ça. La question, c'était quoi déjà?
Votre projet, éventuellement?
Ah oui, oui. Alors donc, je suis entré dans un projet global qui était d'exister dans la profondeur, quoi. Et je continue sur ce terrain-là. Je continue à creuser, comme si j'étais le mineur de mon propre gisement, d'émotions. Et j'écris tout le temps sur tout ce que je vois. Ça n'est pas de la poésie, mais c'est un peu à rencontrer à l'occasion. Ça n'est pas des récits de voyage, mais ça en est aussi. J'ai écrit sur Istanbul, j'ai écrit sur Venise, j'ai écrit sur Prague, etc. Mais ça n'est pas des guides, c'est des livres d'évasion. Je m'évade. En fait, c'est le mot. J'écris pour m'évader. Pour m'évader d'un peu tout. Hein.
Gilles, je pense que la musique tient une part importante dans votre vie.
Pardon, quoi donc?
La musique.
Ah, la musique, pour moi, c'est fondamental. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est même plus important pour moi que tout le reste. Après, je mettrai en second la peinture. Et ce n'est qu'après que je mets la littérature dans ma sensibilité, alors que je suis quelqu'un, un lecteur précoce. Par exemple, j'ai un musicien que je place au-dessus de tous, c'est Schubert. Alors, bien sûr, le voyage d'hiver, pour moi, c'est vraiment le avec ce dernier lied, Der Leiermann, le vielleux, qui est le plus beau lied, la plus belle chanson qu'on ait jamais écrite, extraordinaire.
Merci Gilles pour cet entretien. Chers auditeurs, vous avez compris que Gilles apprécie hautement la musique et que pour lui, ça fait partie de son quotidien. Alors, à sa demande, nous allons, pour terminer cette émission, écouter La jeune fille et la mort, le deuxième mouvement de Schubert. Mais avant, deux ou trois informations. La première, je vous donne rendez-vous lundi 30 pour Les cris de la terre et de la nature, et mardi 31 mai pour Michel Serres, passeur pour le 21e siècle. Michel Serres ne pourra être malheureusement parmi nous, il est très malade, mais nous entendrons sa voix et nous aurons des participants qui rendront hommage à Michel Serres. La deuxième chose, le site sur lequel vous retrouvez à la fois toutes les émissions et des notes de synthèse, www.fr.
relié en petits caractères art au pluriel, culture au pluriel, éducation singulier, .com/. Chers auditeurs, merci et je vous laisse à écouter La jeune fille et la mort, deuxième mouvement de Schubert. Quant à toute l'œuvre de Gilles Jouannard, vous la retrouverez dans la note de synthèse. Bonsoir.
Thank you.